Bienvenue sur Radio Mayuri Campus. J'accueille Madame Marie-Georges Thébia, professeure d'histoire et auteure, historienne, romancière. Elle publie Saül et les poussières d'or, un ouvrage illustré par Olivier Copin. Madame Thébia, bonjour.
Bonjour à vous et merci pour l'invitation.
C'est le troisième titre d'une série historique jeunesse après Copéna et Ayana, c'est cela ?
Oui, c'est le troisième titre de la collection Mes romans de Guyane, une collection qui fait la part belle à l'histoire. Et avec Saül et les poussières d'or, eh bien, on clôt la trilogie.
Il n'y en aura pas d'autres, c'est un scoop.
Alors, personnellement, je vais faire une petite pause parce que j'ai besoin de mener à bien d'autres projets qui ont été mis en stand-by pour pouvoir réaliser ces trois ouvrages. Oui, peut-être que je reviendrai à la littérature jeunesse, mais je vais pouvoir me consacrer à d'autres projets qui me tiennent à cœur.
Oui, faut-il rappeler que vous êtes professeur, vous êtes auteur et que vous intervenez également à l'Université de Guyane. Cela fait beaucoup de casquettes, beaucoup de responsabilités.
Oui, mais je suis ravie d'intervenir à l'université. Donc, c'est depuis le mois d'octobre où je vis un peu, en quelque sorte, j'ai une chance inouïe puisque j'enseigne l'histoire de la littérature guyanaise et j'essaye de transmettre à mes étudiants justement ce petit supplément d'âme. Qui, à mon avis, fait défaut dans l'enseignement aujourd'hui. Mes étudiants me le rendent bien, ils sont contents, ils sont ravis. Et moi, j'exulte.
Pour revenir à votre ouvrage paru chez Plume Verte, Saül et les poussières d'or, c'est un roman d'aventure palpitant au temps de la rouillée vers l'or pour les enfants dès 8 ans, suivi d'un cahier documentaire pour tout savoir sur les chercheurs d'or de Guyane. On est vraiment dans la suite de ce que vous aviez déjà publié pour les jeunes, les très jeunes, puisqu'on parle de 8 à 12 ans.
Oui, 8 à 12 ans, mais bon, avec Copéna et Ayana, en fait, on s'est rendu compte que
les adultes les lisaient
également. Et les adultes les lisaient également, les parents, les enseignants, et que quand c'était les adultes qui se l'appropriaient, par exemple, petite anecdote rapide, j'ai eu des adultes sont venus à des dédicaces, et moi, j'attends et je demande, vous pouvez me donner le nom de votre enfant, c'est pour un enfant, et non, c'est pour moi. Donc après, bon, bien sûr, il y a la curiosité. Et en fait, j'ai découvert que c'était pour certains le premier niveau, la première recherche, enfin, qu'il faisait justement pour connaître la fameuse période historique en question. Et finalement, ce qui me réjouit, c'est que ça ouvre la curiosité et que pour les adultes, en tout cas, ils vont aller vers des ouvrages un peu plus, on va dire, de leur âge, des ouvrages un peu plus fouillés. Mais c'est vraiment, comment dire, voilà, on, avec ces ouvrages qui sont au départ destinés aux enfants, on s'aperçoit que finalement les adultes les lisent également.
Ce qui vous anime, Madame Marie-Georges Thébia, c'est de permettre aux jeunes Guyanais de 8 à 12 ans de découvrir l'histoire de leur pays à travers ces aventures, de découvrir des enfants, des personnages d'enfants qui les ressemblent.
Oui, alors les trois ouvrages ont été écrits pour des enfants, mais le fil conducteur de ces trois ouvrages, c'est que les héros sont des... Alors pour Copéna, c'est un petit garçon, Ayana, c'est une petite fille, et Saül, c'est un petit garçon. Et en fait, pour écrire ces trois romans, j'ai dû me mettre à hauteur d'enfant, voilà, ce qui n'a pas été chose aisée. Et en fait, les ouvrages, oui, les enfants s'identifient parfaitement. Hein, on s'identifie à Copéna, parce qu'il a 8 ans, 9 ans, il fait des bêtises. Ayana également, elle est intrépide, elle brave... comment dire, la caste de son village, parce qu'elle n'est pas destinée à être chef. Saül, lui aussi, est très courageux. Il a une vie très dure d'orpailleur avec son père. Ils cherchent de l'or. Ils ont quitté Sainte-Lucie à la recherche d'une vie meilleure, et ils s'aperçoivent que finalement, trouver le filon magique, ce n'est pas si évident. La compétition est rude, la concurrence est dure. Et ce petit garçon, moi, à chaque fois, il m'émeut beaucoup parce que il est très, il est courageux. Il accompagne son papa. Ils n'ont aucune certitude de trouver un jour le filon, l'endroit où ils vont trouver de l'or, le placer magique. Et finalement, ils s'accrochent à son rêve. Ils sont confrontés à des méchants. Alors, pour revenir à la littérature pour jeunesse, il y a une espèce, on va dire, de cahier des charges, entre guillemets. Il faut qu'il y ait des méchants. Voilà, il y a un cocktail, les méchants, du suspense, des rebondissements. Il ne faut pas que les enfants s'ennuient. Il faut aussi trouver des situations un petit peu comiques, rigolotes. C'est un juste dosage. Et puis, il ne faut surtout pas les ennuyer, parce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est compliqué.
Absolument.
À la concurrence. La concurrence est rude avec
Internet,
les écrans. Et c'est vrai que les enfants aujourd'hui n'ont pas la patience des enfants d'hier. Il faut que, 5-6 premières pages, ils soient happés. Sinon, c'est comme ils disent eux-mêmes, c'est mort. Il faut vraiment, il y a tout un process pour pouvoir justement susciter l'attention, la garder surtout, et que les enfants vous disent avec des yeux émerveillés, moi j'ai des enfants que je croise et qui me disent, mais pourquoi elle est morte, la grand-mère de Copena, pourquoi Yana finalement elle s'en va, elle quitte son village, et puis ses parents sont victimes de la maladie, vraiment c'est touchant.
Et vous avez porté un soin particulier à la fois à la forme et au fond de ces romans, en particulier ce troisième opus, puisque vous vous êtes associé à l'illustrateur Olivier Copin, qui avec brio amplifie les atmosphères du récit et sollicite l'imaginaire des enfants. C'est important pour vous.
Alors, dans un livre d'enfants, il faut des images. Alors, j'aurais pu en mettre beaucoup plus, mais je trouve que en mettre trop, c'est brider l'imagination des enfants. Donc on en a mis quelques-unes, et ces illustrations, elles ont été réalisées par Olivier Copin, que je salue, pour qui j'ai une grande admiration. Il a été le co-auteur de la BD sur l'histoire de la Guyane, qui a eu beaucoup de succès. Olivier a su répondre à mes attentes, parce qu'il prenait la succession d'une autre illustratrice, Marie Werwer. J'ai tenu à ce qu'il n'y ait pas trop de changements et de coupures avec ce qui se faisait avant, ce qui avait été fait avant. Et c'est vrai que la couverture est pratiquement la même que les ouvrages précédents. Et Olivier, eh bien, je trouve qu'il sublime le roman. Ses illustrations sont lumineuses. Et puis, ce qui était intéressant, c'est que comme c'est un roman historique, il a fallu soigner des détails. Il a fallu, par exemple, se renseigner sur la manière dont les Cayennaises s'habillaient au début du XXe siècle. En n'étant pas sûre, on a fait quelques esquisses, je me suis renseignée, et je disais à Olivier, écoute Olivier, elle ne s'habillait pas comme ça. Donc si on veut être dans la réalité historique et qu'on veut être irréprochable, il faut que même dans les moindres détails, on respecte ces précisions historiques. Donc dans le roman, vous avez toutes les illustrations qui relèvent d'une recherche approfondie en histoire, que ce soit les voitures. À un moment donné, je fais une description de Cayenne en 1915-1917. Les rues étaient encore boueuses. Il y avait quelques réverbères. Les boutiques, c'était des boutiques d'orpailleurs, vous savez, avec des tonneaux de haricots qui venaient de Bordeaux, de la viande salée, les produits que les orpailleurs venaient acheter à Cayenne, à prix fort d'ailleurs, qu'ils échangeaient contre des pépites, pour pouvoir repartir ensuite en forêt et pour pouvoir continuer à chercher de l'or. Donc les détails, ils sont là, et vraiment, je pense par exemple à une boîte de cornebif qui a l'air comme ça, toute,
et c'est banal. Pas,
voilà, banal. Et en réalité, il a fallu chercher les marques qui étaient vendues à l'époque. C'était des marques qui étaient américaines, de cornebif, et qui venaient des États-Unis via le Suriname. Vous voyez, il y avait des boîtes de saumon, de sardines, parce que dans le roman, Copena, son père n'a pas beaucoup d'argent, et quand on est en forêt, on mange du couac et des sardines.
Et pour mettre de l'eau à la bouche de nos auditeurs internautes, on va survoler rapidement ce troisième opus, Saül et les poussières d'or. L'histoire se déroule sur la Mana.
La Haute Mana, qui a été un haut lieu de l'orpaillage au début de la ruée vers l'or. Il y a eu plusieurs endroits en Guyane. Mais la Haute Mana, pourquoi ? Parce que c'est à cet endroit que, en 1910, Saül, le vrai, qui est un saint lucien, a découvert le fameux filon du bœuf d'or. Et vous savez que quand on découvrait un filon, la nouvelle ne pouvait pas être cachée. Et Saül est à l'origine de la création du bourg de Saül, qui ensuite est devenu la commune de Saül. Et dans le roman, je fais un lien avec mon petit Saül. Alors, ce n'est pas l'histoire de Saül, le fondateur de la commune, mais Saül et son père vivent à Sainte-Lucie. Son père coupe de la canne, et bien entendu, c'est la misère. Et le papa envisage très sérieusement de partir, comme beaucoup d'ailleurs. Et quand commence la ruée vers l'or, il y a des appels dans les journaux de compagnies aurifères guyanaises, qui sont souvent tenues par des mulâtres ou des Européens, quelques Guyanais, quelques créoles guyanais. Et ils tombent sur une annonce, la compagnie Bessières. Alors, en réalité, elle a existé, c'est la compagnie Bassière. D'accord. J'ai juste changé un peu le nom, qui justement fait un appel à la main d'œuvre. Donc il voit dans un encart qu'il sera amené à travailler dans un endroit qui s'appelle Saül. Et donc, pour lui, c'est un signe du destin. Il y a un endroit qui s'appelle comme son fils, en Guyane, cette terre inconnue. Il est inquiet. Il va quitter son île, il va quitter sa famille. Il promet de revenir, d'ailleurs. Il promet de revenir. Et il ne reviendra pas. Ouais. Mais donc la ruée vers l'or, 1910. L'or avait été découvert bien avant par l'Indien Paoline. Mais ça ne va jamais prendre l'ampleur que ça a pris à partir des années 1910-1920, où on va avoir environ 20 000 personnes qui vont arriver de partout, beaucoup d'immigrés antillais, beaucoup de Saint-Luciens, et même des Californiens d'ailleurs. Je suis tombée sur un texte où on avait des Californiens. Voilà. Donc, et ça a fait écho d'ailleurs, quand j'écrivais le livre, un ouvrage que j'avais lu étant enfant, un ouvrage de Jack London, Cro-Blanc, qui raconte un peu cette histoire de ruée vers l'or, mais au Canada, dans le nord canadien, avec une ambiance comme ça de fin de monde, en même temps de début d'autre chose.
Ces histoires que vous racontez, Madame Marie-Georges Thébia, dans cette série de livres jeunesse, ne sont pas des science-fiction. Vous avez mené de véritables recherches qui vous ont permis, au fait, d'en arriver à ces récits.
Oui, j'ai deux casquettes. Je suis professeure d'histoire. Je suis également historienne, puisque j'ai soutenu un travail de deuxième et de troisième cycle. Donc j'ai eu cette rigueur qui m'a été inculquée, la rigueur scientifique, la rigueur historique, la peur de l'à peu près, la peur de l'approximatif, qui est souvent sujet à des débats qui peuvent devenir incontrôlables. Donc je me suis fait un point d'honneur à être précise. Et quand j'avais un doute, j'ai d'ailleurs bénéficié de l'expertise de monsieur Serge Mamlamfouk, qui est professeur à l'université, professeur d'histoire. Et quand j'avais un doute et que je ne trouvais pas la bonne information, je préférais m'arrêter là, attendre la réponse de monsieur Mamelin Fouque pour pouvoir continuer. Donc c'est un ouvrage pour enfants, mais c'est un ouvrage aussi historique, rigoureux, comment dire, sérieux, qui pourra être utilisé par les enseignants, puisqu'à la fin de cet ouvrage...
Oui, j'allais justement en parler. Ce qui explique peut-être aussi, Marie-Georges Thébia, le succès de ces différents livres. Pour rappel, les deux premiers titres de la collection étaient classés parmi les 10 meilleures ventes en librairie régionale en août 2021, palmarès France-Guyane. Ils sont aujourd'hui inscrits sur les listes de recommandations de lecture des enseignants de collège et lycée de Guyane. C'est que votre travail est reconnu par vos pairs.
Oui, j'en suis très fière. Et puis, moi, je remercie toutes les personnes qui m'ont accompagnée, parce que je ne suis pas toute seule dans cette aventure avec les éditions Plume Verte. Oui. Il y a une documentaliste, il y a un infographiste, c'est une équipe, une documentaliste qui est allée, qui a écrit dans les archives en métropole pour avoir justement les documents. Vraiment, j'ai été épaulée pour qu'on puisse arriver à un résultat dont on est fier et surtout dont on sera fier dans encore plusieurs années.
Bien sûr.
Bien sûr. Ça c'est très important, ce que l'on laisse.
C'est du patrimoine immatériel. Vous étiez en train d'en parler tout à l'heure pour dire que ces trois romans de la collection sont accompagnés de fiches pédagogiques réalisées par Christine Garnier, professeure de lettres modernes. Des fiches qui sont téléchargeables sur le site des éditions Plume Verte, si je ne m'abuse.
Oui, téléchargeables gratuitement. Et puis, il y a à la suite de tous les trois romans d'ailleurs, il y a un complément pédagogique didactique pour permettre d'aller plus loin pour les enseignants, qui permet d'avoir des éclaircissements sur les points bien précis. Alors, pour Saül, je me suis fait un point d'honneur à revenir sur le mythe de l'Eldorado. Ça, c'était très important d'expliquer ça aux enfants. La découverte de l'or, donc on fait un historique précis. Et puis, c'était intéressant d'expliquer aux enfants quelles étaient les techniques d'exploitation. Parce qu'aujourd'hui, la vision qu'ils ont de leur paillage, quand ils en ont une, c'est un orpaillage plutôt écocide, plutôt destructeur de la forêt. À l'époque, il y avait toujours l'usage de matières qui sont contestables, comme par exemple le mercure. Voilà, mais c'était à l'échelle humaine. Ce n'était pas une industrie. Et les orpailleurs se faisaient un point d'honneur quand même à respecter l'endroit où ils avaient fouillé, où ils avaient cherché de l'or. Il y avait une communauté, il y avait un village, il y avait de la vie. Donc c'était important de revenir sur ces techniques d'exploitation. Et puis également sur le travail de l'or. Comment on travaille l'or, comment on va amalgamer, comment on va. Quelle est la distinction entre un gisement filonien, un gisement primaire, un gisement alluvionnaire. Enfin bon, on a tenu à ce qu'il y ait cette partie qui ne soit pas la partie romancée, mais que ce soit la partie concrète.
Pédagogique. Alors, un déclic pour la transmission qui est quand même né pendant les mouvements sociaux 2017, que j'aime à rappeler, chacun ses souvenirs de ces mouvements, mais en tout cas pour vous, vous avez ressenti un réel besoin de mettre, de diffuser, de vulgariser ces connaissances, ces savoirs, pour permettre à ces jeunes Guyanais de s'émanciper, surtout de mieux s'identifier dans l'environnement dans lequel ils se trouvent.
Oui, je dirais que le point révélateur a été, vous savez, les événements de 2017 seront perçus de manière, comme vous venez de le dire, différente.
Bien sûr.
Chacun a eu sa perception, chacun a eu son histoire.
C'est lunettes,
ouais. Ça sera un événement qui est marqué à jamais dans l'histoire de la Guyane, avec bien sûr les différentes perceptions. Moi, la perception, la mienne en tout cas, celle que j'ai eue, c'est qu'il y a eu, après 2017, une recherche, une quête.
Identitaire.
Une quête identitaire. Alors attention, il y avait déjà des ouvrages qui avaient été qui étaient disponibles, notamment ceux réalisés par l'équipe des professeurs d'histoire géographie, la revue du jeune historien, qui est quand même bien documentée. Voilà, c'était que c'est une référence. Mais il me semblait, je suis professeur, et c'est vrai que quand j'aborde certains sujets, les visages se ferment, parce que lorsqu'on dit, voilà, on va étudier l'esclavage, tout de suite, voilà, on va étudier des textes, ça va être un peu ennuyeux, ça va être rébarbatif, ça va être, voilà. Donc j'ai réfléchi aux moyens, en tant qu'enseignante, hein, d'apporter cette connaissance historique en utilisant un moyen un peu plus, on va dire, ludique, un moyen qui pourrait susciter un peu plus d'adhésion, que ce soit quelque chose de naturel, un mouvement naturel.
Et en fonction aussi de votre expertise.
Et en fonction de mon expertise, du constat que j'avais fait avec mes élèves.
Hein. Bien sûr.
Voilà, donc j'ai réfléchi et j'ai commencé par Copena. Et c'est vrai que j'en suis aujourd'hui, vraiment, je suis vraiment reconnaissante à toutes les personnes qui m'ont soutenue, parce que ce petit roman, c'est un petit roman, mais a apporté tellement de choses aux enfants, tellement de connaissances sur l'esclavage, sur le marronnage. En fait, c'est un cours, mais comment vous dire, qui a un impact très important. Mmh. Ne serait-ce que de s'identifier à Copena, à sa grand-mère qui vient d'Afrique, à avoir la vie sur l'habitation. Vous auriez pu expliquer à un enfant comment on vit sur une habitation, le commandeur, etc. Bon, vous auriez pu lui faire un cours, lui faire lire des documents. Mais là, c'est tellement concret. On a même le loisir, quand on écrit pour les enfants, d'utiliser peut-être des ressorts enfantins qu'on ne se serait jamais permis pour une écriture pour les adultes. Par exemple, dans Copena, je me suis permis de reproduire les onomatopées ou les bruits inhérents au fouet sur la peau. Vous voyez, slack, slack. Ça, bon, on ne peut pas l'écrire pour des enfants. Pour les Amérindiens, c'est pareil. Pour la petite Ayana, j'ai pu informer les enfants de ce qu'a été la Guyane précolombienne, une Guyane où il y avait des villages, où les gens allaient à la pêche, où les gens étaient en autosuffisance, où on pratiquait déjà on pratiquait la bâtie. Enfin bon, je pense que c'est aujourd'hui c'est compliqué d'apporter la connaissance aux enfants. Ils s'ennuient très vite, ils sont voilà, et le fait d'avoir transmis toutes ces connaissances par le biais du roman, je pense que aujourd'hui, avec le recul, ça a été un bon choix, un choix judicieux.
Canal. Saül et les poussières d'or, un livre passionnant que nous vous invitons à découvrir et à parcourir. Troisième opus de cette série d'ouvrages jeunesse que publie Madame Marie-Georges Thébia. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée. Je rappelle qu'on peut continuer à vous suivre, bien évidemment, sur les réseaux sociaux, et vous serez également en séance dédicace un peu partout,
oui,
sur
samedi,
le territoire.
Alors, si les événements nous le permettent.
Voilà.
Donc, samedi de 10h30 à 12h30 à la Casa Bulle de Cayenne, de 16h30 à 18h30 à la Casa Bulle de Rémire, et puis le 11 décembre, la nouvelle librairie de Kourou, Casa Bulle de Kourou, où nous y serons de 10h à midi.
Et bien évidemment, vous serez accompagné de monsieur
d'Olivier,
Olivier,
bien Coppa. Sûr, Olivier sera avec moi et il y aura des dédicaces premium, hein, avec le dessin de notre artiste.
Parfait, merci beaucoup madame.
Merci à vous monsieur.
Au revoir.
Au revoir.